Entracte.
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 Entracte. Le magazine culturel de Radio Aviva.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entracte. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christiane Prigul, qui est directrice de l'Institut Confucius à Montpellier et qui vient nous parler donc de cet institut à Montpellier. C'est un institut chinois, il me semble, franco-chinois, comment on peut l'appeler ?
Oui, bonjour. On peut considérer que c'est un centre culturel chinois, mais qui a été fondé par des membres français et chinois. Donc, on peut aussi dire franco-chinois.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans cet institut ? Et où est-ce qu'on le trouve à Montpellier ? Et depuis quand il existe ?
Alors, il existe depuis 2013. L'inauguration a été faite en septembre 2013 et il se trouve sur les rives du Lez.
Voilà, l'espace Jacques Ier d'Aragon.
Jacques Ier d'Aragon, entre l'hôtel de région et l'université de Montpellier, sciences économiques à Richter.
Alors vous co-dirigez l'institut techniquement, puisqu'il y a une directrice française, une directrice chinoise.
Absolument, donc c'est vraiment bicéphale, un peu comme les gestions des alliances françaises. Donc ma collègue chinoise Mayen, elle est issue de l'université chinoise partenaire, qui est l'université des sciences et technologies de Chine à Chengdu, qui avait signé la convention avec l'université de Montpellier, qui a été rejoint en même temps pour soutenir cet institut par la ville de Montpellier, par le rectorat. Et donc à l'époque, c'était, quand je dis UM, c'était UM1 et UM2, et rejoint par l'université Paul Valéry en 2016.
Donc là, c'est l'université de Montpellier en général, quoi.
Oui, exactement, groupe. C'est l'université, donc l'UM et l'université Paul Valéry aussi, puisqu'ils sont l'université des sciences humaines. Et donc pour le côté chinois, c'est ma collègue, Mayenne, et pour le côté français, on va dire, c'est moi.
Christiane.
Voilà, c'est ça.
Alors, comment est né alors cet institut ? Comment il est arrivé à Montpellier ? Il paraît que ça n'a pas été évident d'installer un tel institut.
Alors effectivement, moi je ne suis pas du tout à l'origine de l'institut, dans la mesure où je suis arrivée après la bataille en quelque sorte, puisque les personnes qui se sont battues pour monter l'institut ont fait le travail bien en amont. Mais je pense que déjà que la ville de Chengdu et la ville de Montpellier soient villes jumelles depuis 1981 est certainement quand même un gros point de départ.
Voilà, c'est parti de là, du jumelage entre...
Je pense que ça, déjà, ça montre une certaine appétence, une certaine ouverture de la ville de Montpellier et de Chengdu aussi, puisque en 1981, Montpellier et Chengdu avaient quand même une grosse différence de taille, encore comme aujourd'hui. Et je pense que cette volonté a été soutenue aussi par, je sais qu'à l'époque, donc la ville de Montpellier, pour les relations internationales, d'ailleurs Perla Danon, par l'ancien recteur Christian Philippe qui a ouvert les sections internationales de chinois, donc une implication très très forte de la part du rectorat, et aussi les universités qui ont toutes les deux maintenant on peut dire, des relations fortes avec la Chine, pas forcément Chengdu, mais au moins des relations fortes avec la Chine.
Alors depuis 2013, on a donc cet institut Confucius. Quel est son rôle ?
Son rôle est certainement de permettre au plus grand nombre de se familiariser avec la culture chinoise et aussi d'apprendre la langue chinoise.
Et donc aussi un rôle pour un large public, on n'est pas...
Oui,
que...
tout à fait, notre public, l'âge, on accepte les enfants à partir de 6 ans, et il n'y a pas de limite d'âge, en fait, j'ai envie de dire, la limite, c'est le manque de passion, c'est pas... Nous, on accueille tout le monde.
Alors justement, qui sont les gens qui viennent au sein de l'Institut ?
Alors aujourd'hui, c'est très très varié. On a des enfants qui peuvent être issus d'une biculture chinoise et autre, pas forcément française d'ailleurs. On a aussi des enfants qui font du chinois en section internationale, mais pas forcément. On a des étudiants dans toutes les... Bon, l'université de Montpellier aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui apprennent le chinois à l'Institut. Et également des adultes déjà en formation ou qui souhaitent réorienter leur carrière professionnelle avec la Chine. On a aussi peut-être à peu près 20% de personnes âgées qui sont passionnées par la Chine, qui sont extrêmement investies, qui ont parfois de la famille qui vit en Chine. et qui sont extrêmement motivés au point de travailler, de stresser pour passer les examens de chinois à l'institut.
Alors aujourd'hui, le chinois, c'est vrai qu'on a souvent appris à enseigner l'anglais comme langue internationale, mais le chinois devient une langue très forte dans le milieu, en tout cas commercial, dans le travail. Il y a beaucoup d'expats hein, français qui vont travailler en Chine, qui vont vivre en Chine. Mmh. C'est une langue qui monte vraiment en puissance.
Tout à fait. En fait, globalement, on considère que l'anglais n'est plus une langue étrangère. Et s'il faut maîtriser une autre langue, l'espagnol, c'est bien. Il y a plein d'autres langues qui sont très intéressantes. Évidemment, l'intérêt pour le chinois vient de l'explosion économique de la Chine et donc des opportunités que cela représente. Après, maintenant, si un Français, ou peu importe, souhaite aller s'implanter en Chine, il est essentiel de parler chinois parce que la concurrence est forte.
Et puis, c'est pas évident quand même de parler chinois. Comment, globalement, on peut... Combien de temps il faut pour maîtriser la langue chinoise, l'écriture?
Ça, c'est une question terrible.
Je pense que c'est propre à chacun, mais oui, c'est quand même très dur.
Alors après, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant avec le chinois, c'est que c'est très facile de commencer dans la mesure, et ça parle beaucoup aux personnes qui apprennent le français, il n'y a pas de masculin, pas de féminin,
pas de conjugaison,
ah, ça fait rêver. Bon, alors effectivement, il y a les tons qu'il faut maîtriser parce que si on prononce pas correctement, ça veut dire autre chose. Mais la partie, j'ai envie de dire, le début de l'apprentissage est très satisfaisant parce que très très vite, avec assez peu de caractères, on peut exprimer des choses.
Merci beaucoup Christiane. On revient tout de suite après une pause musicale pour parler de la programmation et des événements à venir au sein de l'Institut. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de numéro Entracte. Pour rappel, je suis en compagnie de Christiane Prigulle. Alors Christiane Prigulle, on rappelle, vous êtes co-directrice de l'Institut Confucius à Montpellier. En première partie de cette émission, on a vu un petit peu comment l'Institut est arrivé à Montpellier, un petit peu les rouages de la langue chinoise que vous enseignez au sein de l'Institut. Et justement, quelles sont les activités que vous proposez au sein de l'Institut Confucius à Montpellier?
Alors, à l'Institut Confucius, principalement, nous proposons des cours de chinois. Nous proposons également des cours de calligraphie, des cours de peinture chinoise. Il nous arrive aussi de proposer des cours de découverte du thé ou comment préparer le thé. Et nous organisons des activités culturelles assez régulièrement.
Pour le thé, on revient dessus, il y a un vrai rituel sur ça, ou c'est au Japon?
Alors le rituel est certainement beaucoup plus complexe au Japon,
qu'en Chine,
parce qu'ils utilisent de la poudre de thé, mais en Chine, il y a quand même aussi, quand même il faut Ben, le thé se verse d'une certaine façon en fonction de si c'est du thé vert, du thé rouge, c'est pas tout à fait de la même façon.
Donc ça, les rites, c'est un petit peu ce que vous enseignez aussi au sein de l'Institut ?
En fait, on apprend à différencier le thé, à savoir comment le préparer, comment reconnaître un bon thé, comment le savourer.
Alors, on n'apprend pas que le chinois, on apprend aussi les us et coutumes.
Non, parce que c'est pas... On peut être intéressé par la culture chinoise, mais pour autant, ne pas avoir envie de s'investir dans la langue ou dans l'apprentissage de la langue. On peut prendre plaisir, je ne sais pas, à aller voir des films, à aller faire un petit peu de calligraphie, à faire de la peinture, mais sans forcément rentrer vraiment dans la langue en elle-même.
Alors ça, ce sont quelques-uns des programmes que vous proposez. Il y a des conférences également que vous organisez ?
Oui, tout à fait. On organise régulièrement des conférences, régulièrement à la médiathèque Imizola, par exemple, ou à la salle Pétrarque. Ça peut être dans d'autres endroits, ça dépend aussi des sujets.
Et quelles sont les autres activités qu'on peut retrouver ?
Donc, à l'Institut de Confucius de Montpellier, depuis 2016, nous sommes à l'origine du magazine franco-chinois, le magazine Institut Confucius.
Alors que vous nous avez ramené au sein des studios, là, qui sont très beaux, hein, déjà.
Merci.
C'est des magazines A4. Alors, qui les crée ces magazines ? Vous m'avez dit, bon, on a une équipe de professionnels.
En fait, c'est principalement ma collègue Mayenne qui est en charge de l'édition du magazine, qui s'est entourée d'une équipe pour l'aider, parce que c'est un gros travail, effectivement. Et pour chaque thématique, il y a une équipe de spécialistes qui rédigent les articles. Évidemment, nous avons des graphistes professionnels, une directrice artistique qui est assez pertinente. C'est pour ça qu'on aime beaucoup aussi le travail.
Ils sont très bien illustrés. Qu'est-ce qu'on retrouve alors dans ce magazine ?
Alors, dans ce magazine, en fait, ils sont un petit peu intemporels. Parfois, il y a des liens avec des activités, enfin, des expositions, par exemple, à Paris ou dans d'autres villes. Mais principalement, ce sont des thématiques, par exemple, transversales. Au hasard, j'en ai un sur la peinture chinoise. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment permettre au lecteur de mieux comprendre, mieux appréhender la peinture chinoise. On en a d'autres sur Suzhou. Le dernier qui est sorti, c'était sur l'encens. Et celui qui n'est pas encore disponible, mais qui est sous presse à Montpellier, qu'on va recevoir bientôt, qui est sur la chevalerie, sur les chevaliers. Donc vraiment sur toute la culture, comment comprendre en fait l'esprit des chevaliers, d'où ça vient, ça vient du royaume combattant et tout ça. Donc on veut vraiment permettre au lecteur de rentrer par thématique très très au cœur du sujet.
Vous l'éditez à combien d'exemplaires ?
Il est édité à 6000 exemplaires.
Ah oui, c'est un sacré tirage quand même. C'est... Alors où est-ce qu'on peut les retrouver ?
Alors on peut les retrouver dans beaucoup d'endroits, évidemment à l'Institut Confucius de Montpellier. Après, ils sont envoyés dans de nombreux CDI, nombreuses bibliothèques, nombreuses universités, au rectorat à Montpellier, on peut aussi les retrouver. Et si on est intéressé, il suffit de nous contacter pour qu'on les envoie gratuitement au domicile des personnes.
Alors, on le rappelle, l'Institut Confucius, vous dispensez des cours pour tout niveau, pour tout public.
Oui, absolument. Donc, il y a des cours pour enfants, de niveau débutant à niveau, j'ai envie de dire, confirmé. Donc, les critères, ça va de 0 à 6. Hein, c'est pour, par rapport au niveau d'examen de chinois, c'est le HSK. Donc, ça va de 1 à 6. Et donc, le niveau débutant, on dit que c'est le niveau 0-1. Nous avons des groupes de tout niveau avec des personnes régulièrement inscrites dans chaque groupe.
Vous êtes un centre d'examen aussi ?
Oui, absolument. Donc, nous organisons deux fois par an les examens de HSK. On travaille avec le lycée Jules Guedes, puisqu'on a la chance de proposer les examens sur ordinateur, ce qui facilite grandement la tâche des personnes qui passent des niveaux relativement élevés, où il va falloir écrire en chinois. On va gagner beaucoup de temps en tapant sur le clavier directement plutôt que d'écrire à la main.
Et vous préparez notamment aux examens ?
Oui, tout à fait. Oui, on peut proposer des séances intensives de préparation à l'examen.
Alors, on peut donc apprendre le chinois pour son propre plaisir ou parce qu'on est étudiant. Comment ça se passe ? Si moi, j'ai envie d'apprendre le chinois et que finalement, au bout de 6 mois, je me dis que c'est quand même assez compliqué, mais je travaille à côté, est-ce que j'ai le temps ? Comment on peut s'organiser ?
Alors, je crois que, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, je crois que la passion entraîne la motivation de façon à vraiment quand même à avoir un intérêt à apprendre le chinois. Nous proposons des cours le soir, le week-end, donc de façon à s'adapter aussi aux personnes qui sont dans la vie active. Il y a des cours aussi en journée pour des personnes qui sont plus disponibles la journée. Donc en fait, on propose plusieurs créneaux de façon à essayer de s'adapter au mieux. Chaque année, on fait une enquête pour savoir quels sont les créneaux favoris. C'est très difficile de donner satisfaction à chacun, mais on fait de notre mieux.
Et puis, pour les élèves de l'Institut, il y a des bourses ?
Alors, il est possible de postuler pour des bourses pour aller étudier en Chine, effectivement. Donc là, ces bourses-là sont directement gérées par le siège des Instituts Confucius à Pékin. Mais pour nos élèves, pour les élèves de l'Institut, on peut écrire des lettres de recommandation.
Et là, arrive bientôt le nouvel an chinois. Et ça, c'est un grand événement que les Chinois préparent, que l'Institut prépare aussi d'une main de maître, j'ai envie de dire. Et ça, on va en parler à la troisième partie de notre émission. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro d'Entracte. Pour rappel, je suis en compagnie de Christiane Prigulle, co-directrice de l'Institut Confucius à Montpellier. Confucius, d'ailleurs on pourrait faire un petit rappel, qui est Confucius ?
Ah, c'est un grand sage,
c'est un grand philosophe.
C'est un grand
chinois.
Philosophe qui n'a jamais écrit par lui-même en fait. Les écrits qu'on a de lui sont relayés par ses disciples. Donc,
lui-même n'avait jamais écrit alors.
Non, lui, il a parlé, il a beaucoup parlé, mais il n'a jamais vraiment écrit. Donc, y a
alors,
pas d'écrit
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un grand philosophe chinois.
Oui, tout à fait.
De 500 avant Jésus-Christ, ça remonte à...
C'est très, effectivement très ancien, mais il a plutôt prôné ce qui reste aujourd'hui appelé le confucianisme, forcément d'après son nom. Donc c'est plus une question... de relations sociales et de construction de la société avec la question du respect, je fais simple, question du respect aux parents, le respect filial, ce sont des choses vraiment basées sur la société. On a des philosophes qui ont plus réfléchi à la relation entre l'homme et le ciel, et des choses comme ça. Ça, c'est plus le taoïsme, mais Confucius, c'est vraiment sur la société.
Un aspect très social.
Tout à fait.
Là, on va parler d'un aspect très festif. Nouvel An chinois qui arrive le 5 février. Alors, comment l'Institut Confucius s'est préparé à Montpellier pour ce Nouvel An chinois ?
Alors, c'est effectivement un événement très attendu chaque année qui demande préparation, forcément. Cette année encore, nous allons avoir la chance de pouvoir proposer un allumage des lanternes dans la rue de la Loge. Donc ça se prépare bien en avance hein, pour pouvoir accrocher les lanternes. Et cette année, on commencera les activités le 1er février avec une projection d'un film, Le Roi des Masques. C'est un film ancien. Si on choisit de projeter ce film à la Maison des étudiants Aimé Schoening à l'Université de Montpellier, c'est parce que nous allons recevoir des artistes du Sichuan qui joueront dans la salle Molière le 21 février. Le Roi des Masques, en fait, c'est l'histoire d'un artiste de changement de masque, puisque dans l'opéra du Sichuan, il y a un numéro qui est absolument incontournable et qui est magnifique et qui est vraiment très bluffant, c'est le changement de masque. Donc l'artiste change de masque devant vous et voilà, et vous voyez pas ce qui se passe, vous savez pas comment ça se fait. Donc
c'est une sorte d'Arturo Brachetti chinois.
Alors c'est un art ancestral qui ne se transmet que de père en fils, et l'histoire de ce film Le Roi des Masques racontera cet artiste dans les années 60, dans le Sichuan des années 60, dont le fils est décédé et qui souhaite transmettre son art. Donc il va adopter un enfant pour lui transmettre cet art, sauf que cet enfant qu'il prenait pour un garçon se révèle être une fille. Voilà. Donc le 1er février, nous accueillerons Luisa Prudentino, qui est sinologue et spécialiste du cinéma chinois, pour introduire le film, pour donner des éclairages sur le film et échanger avec le public.
Il y a volontaire de danse du dragon. Alors ça, c'est quoi ? Parce que j'ai vu ça dans votre programme.
Alors effectivement, chaque année, nous travaillons avec l'équipe de Nicolas Rose, Liu Rotao, qui est une association ici à Montpellier plutôt d'art martial, de Wushu. Et chaque année, en fait, on propose aux personnes qui le souhaitent de s'initier en partenariat avec Nicolas Rose à la danse du dragon. Parce que pour l'allumage des lanternes, nous allons proposer rue de la Loge. Donc entre la place de la Comédie et la place de Compostelle, un petit événement à l'occasion de l'allumage des lanternes.
Un petit happening.
Voilà, exactement. Un peu comme un flash mob, mais autorisé, pour la danse du dragon.
Alors, vous avez casté déjà, il me semble, il y avait des dates où on pouvait
venir.
Oui,
tout à fait, absolument. Ils sont en pleine répétition, ils répètent tous les vendredis
soir. Ils
sont
combien, là, à peu près ?
Là, je pense qu'ils sont un peu moins d'une dizaine, parce que c'est pas parce qu'ils s'entraînent qu'ils seront forcément disponibles pour le jour de la danse du dragon. Donc, Nicolas Rose prévoit d'en entraîner un petit peu plus pour être sûr. Il faut quand même 6 personnes pour faire danser le dragon, donc il faut quand même être sûr d'avoir l'équipe. S'il manque une personne, on ne peut pas faire danser le dragon.
Alors le dragon, il est fait en quoi ? C'est des tissus
Oui, c'est
immenses.
Du tissu. Oui, c'est du tissu. Alors c'est pas très immense. Enfin oui, c'est quand même assez long, hein. Je pense qu'il fait à peu près 6 mètres. Donc c'est quand même, c'est un peu lourd aussi à manipuler, parce qu'il y a des tiges de bambou que les personnes doivent porter.
Et ensuite, qu'est-ce que nous prévoit ce Nouvel An chinois ? Qu'est-ce que vous organisez d'autre ?
Alors, donc le premier, ce sera la projection du film. Nous envisageons de faire la danse du dragon le 2 février. Comme c'est un samedi après-midi, peut-être ça risque de changer compte tenu des événements qu'on connaît actuellement. Dans ce cas, sur notre site internet, on précisera. Il est possible qu'on le propose en fonction de la disponibilité des danseurs du dragon, soit le 4, soit le 5. On donnera les informations plus précises. Ensuite, nous allons proposer une exposition de calligraphie à la Maison des Relations Internationales, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, les élèves ou ceux qui le souhaitent peuvent apprendre la calligraphie. Et cette année, nous avons l'immense chance d'avoir un professeur de chinois qui est également calligraphe, vraiment calligraphe, donc qui entraîne les élèves tous les samedis. Il y a un cours de calligraphie, ils sont en train de préparer une exposition. Donc ils exposeront du 9 au 22 février à la Maison des Relations Internationales. Et le samedi 9 février, à partir de 14h30, nous proposerons le vernissage de l'exposition, suivi de petits spectacles proposés par les élèves de l'Institut et des ateliers assez festifs proposés par... par nos amis chinois ici à Montpellier.
Avec un petit moment de partage et de convivialité à la fin.
Absolument, c'est pour ça que la réservation est obligatoire, parce que sinon ça va être difficile à gérer. D'autant que la Maison des Relations Internationales aussi permet d'accueillir sereinement une centaine de personnes, mais au-delà, c'est un peu difficile.
Alors cette année, Nouvel An chinois, c'est l'année du cochon.
Alors c'est l'année du cochon et il reste juste un dernier spectacle dont je vais vous toucher deux mots. Le 21 février, nous serons à la salle Molière où nous allons proposer un spectacle traditionnel du Sichuan. Pourquoi traditionnel ? Parce qu'en fait, il s'agit des arts lyriques du Sichuan. Donc il y aura des chants, il y aura des instruments traditionnels. Il y aura quelque chose qui est assez sympathique quand on le regarde. C'est une scène de ménage à la sichuanaise. C'est plus ou moins un clown, c'est un clown chinois qui est vraiment c'est très très drôle, même si on comprend pas parce qu'ils vont se parler en sichuanais. Enfin, c'est tellement expressif que forcément on comprend. Et il y aura également l'artiste de changement de masque qui sera là le 21 février.
D'ailleurs, on parlait du chinois, mais pour revenir très rapidement sur les cours que vous dispensez, oui. On a plusieurs types de chinois. On a le mandarin.
Oui, alors la langue officielle de la République populaire de Chine, c'est le mandarin.
Après. Bizarre quand vous me dites sichuanais.
Oui, exactement, parce que dans la région du Sichuan, le dialecte, c'est le sichuanais. Après, ça peut varier d'une ville à une autre, mais effectivement, il y a des dialectes à peu près dans chaque, j'ai pas envie de dire chaque ville, mais quasiment, en fait, dans chaque région de Chine, ça c'est certain. Donc, celle qu'on connaît le plus, c'est le mandarin, c'est la langue officielle, et ça, c'est pas un dialecte, c'est vraiment la langue officielle, celle qui est la langue utilisée pour l'école. Il y a le cantonais aussi dans le sud de la Chine qui est assez connu, mais la langue que nous enseignons, nous, c'est le mandarin.
Christiane Prigul, merci beaucoup d'être venue nous présenter l'Institut Confucius à l'approche du Nouvel An chinois. Comme je le disais, le Nouvel An, l'année du cochon.
Oui, merci donc, à vous. Donc l'année du cochon, normalement, c'est une année plus calme, on va bien voir.
Ah, pour tout le monde ou que pour ceux qui sont natifs du signe du cochon?
Non, pour les Chinois, le cochon, c'est vraiment un très bon signe.
Bon, alors tant mieux. On rappelle à nos auditeurs que l'Institut Confucius de Montpellier est situé à l'espace Jacques Ier d'Aragon, 117 rue des États Généraux, dans le quartier de Richterin, sur les bords du Gaise. Pour tout connaître des programmes de l'Institut, rendez-vous sur le site internet www.institut-confucius-montpellier.org. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous souhaite un agréable moment sur les ondes de Radio Aviva.
Entracte.
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 Le magazine culturel de Radio Aviva.